simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive, où cette émission est réalisée à Reims. Les Régors, une parole anarchiste communiste. On va consacrer notre émission à la lutte de Bure et en particulier à la répression. Alors, comment vivre sous contrôle judiciaire, on pourrait intituler cette émission.
Ouais, comment vivre sous contrôle judiciaire. Donc, on va commencer par passer quelques témoignages des principales personnes qui sont incriminées d'associations de malfaiteurs, ce que la presse... Libération a intitulé un article d'un dossier de 4 pages, la traque d'État, antinucléaire à Bure, la traque d'État. Donc, écoute géolocalisation, valise espionne contre les opposants du site d'enfouissement de la Meuse. La justice multiplie les procédures intrusives en dégainant l'arsenal post-attentat. Post-attentat, parce qu'effectivement, c'est une législation, je crois que c'est une loi de 2016 qui est reprise. Qui permet à cet État nucléocrate d'imposer un régime aux populations qui ont le malheur de s'opposer à ces projets destructeurs, de les mettre sous un contrôle et un arsenal absolument faramineux. Donc, je pense que là, on va d'abord retrouver, pour se mettre vraiment dans l'ambiance. Les personnes incriminées qui étaient le 14 novembre dernier, à la Cour de cassation de Paris, évidemment, avec leur avocat Lécuyer, qui a demandé évidemment la levée des mesures exceptionnelles à leur encontre. Alors on va commencer par retrouver, je pense, Angèle. Qui est très impliqué dans la lutte depuis plusieurs années et en particulier dans la Legal Team.
Moi, je suis Angèle. En fait, je suis originaire de la Meuse. J'habite près de Verdun. Et j'étais partie. J'ai un peu vécu ailleurs et puis je suis revenue. Et quand je suis revenue vivre en Meuse, il y a un ami qui m'a dit bah, « Tiens, il se passe des choses là-haut à Bure. Tu sais, je dis, oui, je sais, qui ne connaît pas le projet CIGEO en Meuse ?» Et ben voilà, ils vont planter des patates, ils vont squatter les champs de l'Andra. Ça t'intéresse de venir et... Donc j'y suis allée une fois, deux fois, et puis on a semé du blé. Et au moment où le jus a commencé à être attaqué, défriché, de manière complètement illégale... personnes qui étaient là-bas, qui étaient en lutte à ce moment-là là-bas, ont appelé à tout le réseau des personnes qui avaient participé auparavant à semer le blé, à mettre des patates dans les champs à l'Andra, ont été appelés à venir et donc j'ai répondu à l'appel le 19 juin 2016 et puis ce qui devait arriver arriva, je n'ai jamais pu quitter cette lutte parce que plus on approche de ce projet, plus on comprend ce projet, c'est impossible de le laisser faire. On ne peut plus se taire. Une fois qu'on sait, c'est souvent comme ça. Une fois qu'on sait, c'est fini, on sait. On ne peut plus se taire et on ne peut pas laisser faire ça. Parce que si on laisse faire ça, c'est une catastrophe. Et quand on est un être humain sur cette terre et qu'en plus on a un enfant, et on a quand même envie de laisser quelque chose d'autre qu'une catastrophe nucléaire derrière nous. Donc voilà comment je suis arrivée à la lutte à Bure. Dans le cadre du contrôle judiciaire, depuis que j'ai été mise en examen, le 22 juin, j'ai l'interdiction de me rendre sur la commune de Bure et de Saudron, qui sont les deux communes sur lesquelles repose le laboratoire CIGEO de l'Andra, où ils veulent entreposer les déchets nucléaires les plus toxiques. Et j'ai aussi l'interdiction de rentrer, alors le vrai terme c'est je dois m'abstenir de rentrer en relation avec plusieurs personnes, et maintenant on est au nombre de 9 personnes avec lesquelles j'ai pas le droit de rentrer en relation, qui sont des personnes assez importantes dans la lutte, enfin, en tout cas importantes pour moi, qui sont des amis pour la plupart, avec lesquelles j'entretenais des liens à la fois amicaux et à la fois pour la lutte. Dans les associations, dans des groupes de travail. Voilà. Depuis le mois de juin, on ne sait pas ce qu'on a le droit de faire, dans quelle mesure on a le droit de faire, est-ce qu'on a le droit d'être sur le même trottoir. Alors petit à petit, on pose des questions à nos avocats. Effectivement, on a le droit d'être sur le même trottoir à partir du moment où on a une certaine distance entre nous, que bien sûr, on ne se parle pas. C'est plus délicat d'être dans une pièce privée, même si c'est une conférence, c'est-à-dire rentrer dans un local et qu'il n'y a personne qui peut vérifier vraiment qu'on n'est pas en train de parler, je ne sais pas, moi, aux toilettes. On pourrait très bien être pris en photo dans la même pièce et ensuite, on pourrait très bien être supposé qu'on ait pu communiquer justement en allant aux toilettes. Ça, on n'en sait rien. Donc, c'est très difficile, il n'y a pas vraiment de limite, c'est un flou comme ça. Est-ce que quand on est sur des mailing lists globales, par exemple, en tant qu'administratrice du réseau Sortir du Nucléaire, je suis sur des listes mail comme ça où on communique, puisqu'on on habite chacun aux quatre coins de la France, donc on communique essentiellement par mail au sein du conseil d'administration. Il y a une autre personne qui est dans ce conseil d'administration que je n'ai pas le droit de voir. Est-ce que j'ai le droit de communiquer sur cette liste mail? C'est des questions qui se posent en permanence, en fait. Et bien sûr, on a bien compris que pour une réunion, on n'a pas le droit, puisqu'une réunion d'organisation, d'association, bien sûr, c'est un lieu plutôt privé. Et on n'a pas le droit, là, d'être ensemble dans la réunion. Donc, on organise notre garde, en fait. C'est comme une garde alternée. Il y a des personnes qui s'occupent de communiquer avec chacun d'entre nous pour fixer l'heure à laquelle on pourra participer à la réunion, la tranche horaire à laquelle on pourra participer à la réunion. C'est assez frustrant. Parce que, du coup, on est obligé de s'en aller à un moment, à telle heure, à 9h. Allez, hop, on sort de la réunion. C'est quelqu'un d'autre qui va arriver. On n'a pas le premier, il n'a pas la fin. Le deuxième, il n'a pas le début. Des échanges. Le contrôle judiciaire, en fait, il a un impact sur ma vie militante, et de fait, il a, par cascade, il a un impact sur ma vie familiale et personnelle, puisque effectivement, il y a un moment où je me suis dit, mais comment je vais m'organiser, en fait, puisque si je reste en Meuse, ce que j'aime faire en Meuse, c'est notamment lutter contre cette poubelle nucléaire, c'est ce que je fais depuis 2 ans, maintenant vraiment de manière intensive. Et il se trouve que je ne peux plus aller aux réunions. C'est vraiment compliqué d'organiser ces réunions. C'est compliqué, si on veut organiser le festival l'année prochaine, je ne peux pas non plus participer. Enfin, comment on va participer? On a un camarade de lutte qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et bien, je me suis demandé si je pouvais aller à l'enterrement. Et j'ai fait le choix de ne pas y aller, puisque l'enterrement était dans la zone de Bure en plus. Et je savais qu'il y avait énormément de gendarmes. Donc, que ça allait forcément poser question, que même si, effectivement, on pouvait comprendre que lors de l'enterrement, je n'allais pas m'amuser à aller parler de l'affaire avec mes co-inculpés, pour autant, l'ambiance, elle est tellement vicieuse contre nous, tout est retourné en permanence contre nous, que je me suis dit, bon, n'y vais pas. Et c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit, mais pourquoi je reste en Meuse, en fait? Est-ce que je ne devrais pas, vu que toute cette affaire-là a un impact sur ma famille, que finalement, bah, quand on vient me chercher à 6h le matin, si mon fils, je vis chez ma mère avec mon fils, si mon fils est là, par chance, la dernière fois, il n'était pas là, il était à l'internat, mais effectivement, il aurait pu aussi très bien me voir embarqué par les gendarmes à 6h le matin. De la même manière, les deux perquisitions que j'ai subies, c'est ma mère qui les subit aussi. C'est pas évident à subir. Donc elle subit mon militantisme. Je m'étais dit, je vais partir. Je vais partir, je vais lâcher ma famille, je vais protéger ma famille de cette instruction. En fait. C'est le premier réflexe que j'ai eu, c'était ça en fait. Voilà. Donc je suis partie quand même pendant 2 mois, tout l'été sur les routes. Puis il a quand même bien fallu que je rentre pour organiser la rentrée scolaire de mon fils. Et je suis rentrée, et là, effectivement, j'avais toujours dans cette idée, j'étais toujours dans l'idée de partir. Et puis pour l'instant, c'est pas facile, parce que je vois que mon fils, il a besoin de moi, enfin, au quotidien, concrètement. Depuis la rentrée, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un coup de téléphone, où j'ai finalement, même à 17 ans, un ado, ça a quand même besoin de nous, et puis parce que j'ai ma vie ici. Alors, il se trouve que du coup, au lieu de militer localement, je milite un peu plus sur le national. Je vais plus sur mon rôle d'administratrice du réseau Sortir du Nucléaire que local. Mais voilà, c'est lourd. C'est lourd parce que mes camarades de lutte me manquent, en fait. Mes amis, me manquent. C'est avec eux que j'échange, c'est avec eux que je débat, comme toute personne qui s'implique dans une association. Que ce soit une association contre le nucléaire ou pour le foot, une association sportive de la même manière. On a besoin de communiquer pour organiser le repas de fin d'année ou le loto pour gagner de l'argent. Mais même ça, on ne peut plus le faire, en fait. Mm-hmm. Donc c'est vraiment... C'est une liberté conditionnelle, ça porte assez bien son nom. Et c'est une cage virtuelle dans laquelle on est. On s'auto-censure en permanence. En plus, comme c'est très flou, donc on est obligé sans arrêt de s'auto-censurer, de poser la question tous les matins, tous les soirs. Aujourd'hui, si je veux me rendre à cette réunion, est-ce que je peux y aller? Et tous les soirs, demain, est-ce que si jamais ils arrivent pour m'emmener, pour m'embarquer, est-ce que je suis prête? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est organisé? Est-ce que pour mon fils, tout va bien? Enfin, voilà, ça change la vie, ça change. Mais on s'en rend plus compte. C'est vrai qu'il faut le raconter pour s'en rendre compte. C'est une évidence. Enfin, tant que le nucléaire tiendra, moi, je tiendrai de toute manière. Enfin, c'est hors de question qu'on laisse enfuir ces déchets-là dans la terre. Enfin, c'est hors de question qu'on les laisse enfuir là ou ailleurs. Hein. D'ailleurs, c'est hors de question que ça. Et puis qu'on laisse continuer cette énergie, elle est mortifère. On ne peut pas. Il y a d'urgence, il faut arrêter d'utiliser cette énergie nucléaire. Et il semble qu'on ait du mal à se faire entendre, et par les pouvoirs publics et par la population, quoi que ça change. Donc je pense qu'il y a urgence. Puis je suis de Verdun. Donc quand on est de Verdun, on se souvient qu'il ne faut pas baisser les bras et que quand il y a un danger tel que celui-ci, pour l'humanité, on ne baisse pas les bras. Et on continue, même si parfois il faut sacrifier beaucoup de sa personne et de sa vie personnelle. C'est ce que je fais, mais je ne veux pas m'arrêter.
Oui, commentaire, on voit déjà comment cette stratégie, comme quelque part le dit de toute façon Glady, même si elle débouche sur rien à la fin...
Glady, c'est un juge.
Non, c'est le procureur de la République.
Le procureur de la République.
Qui en charge, donc, qui a permis, qui représente l'État et le parquet, et qui, de concert avec le juge d'instruction, donc...
Kevin Le Fur.
Mène l'enquête. Donc, cette inculpation en juin 2017 sous... le caractère d'association de malfaiteurs permet d'employer des méthodes archimaus, comme par exemple des perquisitions, des gardes à vue hyper longues, des écoutes, mais aussi, et ça c'est intéressant, des IMC catchers, donc ce sont des balises qui aspirent dans une zone, un espace, l'ensemble des données, des téléphones portables, par exemple.
Ouais.
Et on apprend que ces IMC catchers, donc ces balises, parlons français, ces balises ont été utilisées à de nombreuses reprises, mais on peut en citer deux qui sont intéressantes des événements dont on a parlé ici. À la fois un procès qui avait lieu à Bar-le-Duc, au tribunal de Bar-le-Duc, procès concernant Christian et j'ai oublié son
prénom. Les deux Christian.
Les deux Christian, Christian et Christian,
justement.
Par exemple. Les agriculteurs qui avaient participé à la manifestation de réoccupation du Bois-le-Juge, manifestation où, un démurage... un démurage avait été effectué, et puis également la grosse manifestation de Bar-le-Duc au mois de mars. L'état des libertés publiques dans ce pays, grâce à cette procédure exceptionnelle d'association de malfaiteurs,
L'ensemble des gens qui ont été présents à ce procès, à cette manifestation, sont enregistrés d'une manière ou d'une autre, et par résonance, par lien, tous les numéros de téléphone qui sont présents sur leur... Voilà, c'est un peu ça. Ce que je voulais dire, pardon, j'ai pas terminé mon propos de commentaire, c'est que même si ça débouche sur rien, comme le dit lui-même le procureur Glady, hein, c'est pas sûr qu'il y a assez d'éléments après pour procéder à l'inculpation formelle.
Oui, en disant d'ailleurs, en précisant, oui, il y aura peut-être pas la possibilité. C'est quand même 10 000 pages de dossier qui risquent de mener à rien, effectivement. Parce que...
C'est ça. Il dit la fin du film, je la connais pas. Si ça se trouve, à la fin, il y aura pas assez d'éléments. Assez d'éléments pour ouais. mener un procès, quoi. Mais c'est pas grave, ça pourrit la vie des gens. Ça épuise les individus et le mouvement dans la mobilisation contre cette forme de répression, la nécessité de préparer sa défense, la nécessité d'être solidaire, évidemment, avec les gens qui sont inculpés. Et puis c'est d'une lourdeur. Il faut être sacrément fort.
Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, je crois qu'il y a une erreur. C'est pas le 20 juin 2017, c'est le 20 juin 2018, là.
Sur l'inculpation,
sur les perquisitions qui ont lieu.
Ah, je parlais pas des perquisitions, je parlais du lancement de l'instruction et de l'ouverture de l'instruction sur l'association de malfaiteurs.
Ah ouais.
Oui, bon, c'est pas grave, hein. C'est pas très très grave. Pour moi, c'est le 21 juin 2017.
Pour moi,
avec la perquisition.
Pour enfin, moi, bon. Les contrôles judiciaires commencent en juin 2018, mais bon.
Oui, d'accord, mais l'instruction donc qui permet les perquisitions, ouais, les écoutes et tout ça, début en juin 2017.
D'ailleurs, il y a eu plusieurs perquisitions qui étaient censées alimenter cette nasse. D'éléments, que ce soit les premiers téléphones portables, les premiers portables qui avaient été saisis pour constituer justement un vaste fichier de tous les protagonistes de la lutte, établir les liens. Et à ce propos, il faut signaler qu'il y a une antenne spéciale bure de gendarmes ou de policiers qui bosse à plein temps sur cette élimination de la lutte de Bure, il faut bien appeler ça comme ça,
ouais,
puisqu'il s'agit
ouais.
de ça, il s'agit d'éliminer toute la résistance de la population et des gens qui sont impliqués, qui vivent en Meuse ou qui vivent en Haute-Marne à proximité de cette poubelle atomique en projet.
Ouais, c'est ça, tu disais, on parle d'une dizaine de militaires qui bossent à temps plein, hein,
voilà.
Qui sont pas détachés, hein.
C'est ça.
Donc c'est un groupe dont le taf est certainement et d'étudier le mouvement et de sélectionner et de faire des propositions à la justice ou au proc ou à l'instruction pour niquer le mouvement, quoi, clairement. Enfin bon, voilà, hein, l'État il sort les moyens, quoi. Clairement.
Ah oui, sur les moyens. Bon, peut-être on en reviendra dans une deuxième pause après le deuxième témoignage, parce que analyser pourquoi cet entêtement de l'État, ça serait intéressant qu'on ait un peu une réflexion là-dessus, quoi.
Alors peut-être entendre maintenant Joël.
Donc moi c'est Joël. Je suis arrivé dans la lutte à Bure en 2014. À l'époque, on avait un projet, on avait envie d'organiser un campement quelque part en France, et Bure, finalement, c'était un bon endroit pour organiser ce campement. Donc, durant quelques mois, on organisait un campement anti-nucléaire et anti-autoritaire à Bure. Je me suis vraiment installé à Bure en 2016, en septembre 2016, donc à l'issue de l'été d'urgence qui avait été organisé, donc vraiment un moment très intense de mobilisation. J'étais déjà dans la lutte anti-nucléaire depuis plusieurs années, surtout par réseau de connaissances d'amis. C'était des amis qui étaient très engagés au départ et je les ai rejoints, et notamment sur les mobilisations autour dans le Nord Cotentin, autour de la ligne THT, où ils étaient très engagés. Donc de fait, j'y suis venu aussi. Et c'est là que je me suis intéressé aux problématiques de la lutte antinucléaire. Donc, qu'est-ce qui m'a touché dans la lutte anti-THT? C'est le côté David contre Goliath. C'est déjà contre RTE à l'époque, c'était des gens désespérés avec leurs vaches sous les lignes hautes tensions, qui luttaient pour pas qu'elles soient malades sous les lignes hautes tensions, et qui subissaient une pression mais extraordinaire et pour une partie invisible, un peu comme ce qu'on voit à Bure, où on sent qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qui est beaucoup plus gros que ce que qui écrase les gens. Et cet aspect du nucléaire, même si là c'était spécifiquement sur les lignes anti-THT, c'était aussi le cadre du nucléaire, puisque c'est les lignes qui sont prévues entre le père de Flamanville et le reste de la France. En fait. Nous on avait envie de s'installer sur ce territoire parce que de fait, si le projet CIGEO, donc d'enfouissement des déchets, peut proliférer, c'est parce que il le fait au cœur d'une région où il n'y a pas grand monde qui vit. Et donc, à un moment donné, c'était évident pour nous que si on voulait pouvoir lutter contre ce projet, il fallait qu'on soit les habitants qui ne résistaient pas sur place, puisque soit ils étaient écrasés par une omerta terrible qu'on a rencontrée à partir de 2015. On a compris à ce moment-là qu'il n'y aurait pas un soulèvement de population, parce que la population était déjà muselée par les achats et complètement écrasée, intimidée par l'entreprise. Donc il fallait qu'on devienne cette population. Et pour devenir une population, faut habiter le territoire, faut s'installer sur place. Et c'est ce qu'on a essayé de construire. Et après, il y a des visions aussi politiques. Moi, ça fait des années que je me projette dans une vision autogestionnaire, c'est-à-dire l'autonomie, l'autogestion, une autre vision de l'agriculture, une autre vision de la vie, de partage des ressources, de lieux, de recollectiviser les moyens, recollectiviser la vie, en fait. Et ça, c'est pas un aspect communautaire que je recherche, c'est que toute la société évolue vers ça. Concrètement, il y a trop d'individualisme, trop de division des gens, et ça crée une concurrence entre les vies, entre des vies qui sont pauvres. Et nous, on l'a vu à Burk, en quelques mois, on a réussi à faire en sorte que les gens puissent vivre pour très peu d'argent, en mettant tout dans le pot commun, et avec des moyens mis en commun. Donc ça, déjà, c'est en soi déjà une façon de répondre à une industrie nucléaire qui joue beaucoup sur l'isolement des gens. Ben, nous, on construit quelque chose qui les fait aller les uns vers les autres, en fait. Qu'est-ce que je subis comme mesure ? Donc, je suis interdit de voir 9 autres personnes qui sont des amis et des compagnons de lutte depuis, pour certains, plusieurs années. Je n'ai pas le droit d'aller à Bure, Sodron, où j'ai habité un an, et où je suis encore coprésident d'une association qui est la Maison de Résistance. Donc c'est assez coercitif comme cadre. Ça m'empêche totalement de continuer à être au cœur de la lutte comme j'ai choisi de l'être. Ça, c'est lourd, faut le dire. Parce que on habite tous dans le même département, à peu de choses près. Et tous et toutes. Et s'éviter quand on est aussi près les uns des autres, quand on partage une lutte, des amitiés, qu'on a les mêmes amis, les mêmes lieux, les mêmes fréquentations, qu'on reste, parce que de fait, on est mis en cause pour des faits précis, mais on n'est pas condamné pour le fait de lutter, on n'est pas mis en examen pour le fait de lutter, ou bien c'est. Faut croire que si, mais. De fait, ça nous interdit de continuer à lutter d'une certaine façon. Et comme aucun d'entre nous, vu qu'on est très attaché à cette lutte, à ce qu'on a vécu là, on est allé trop loin dans tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a voulu, tout ce qu'on a projeté ici, et on continuera à vivre ici, à lutter ici. Et ça nous rend assez difficile de pouvoir continuer à le faire. Étant donné qu'on ne peut plus se retrouver dans des endroits, on ne peut plus faire des réunions ensemble, on ne peut plus se voir. Je me retourne, je vérifie 3 fois si j'ai bien fermé la porte, j'écoute les bruits dans l'escalier, je sursaute à 5 heures du matin, je me réveille, je me demande si c'est des courses dans l'escalier ou si c'est la voisine qui sort. Je regarde dans la rue si la voiture de gendarme elle ralentit parce qu'elle a une raison de ralentir ou parce que c'est moi qui l'a fait ralentir. Je me demande à chaque message qu'on m'envoie si ce message va se retrouver dans un dossier de 10 000 pages ou pas, parce qu'il est passé de 8 000 à 10 000 en l'espace de 2 mois. Là. Et c'est se demander si tous les morceaux de notre vie qui sont disséqués par des agents qui en déduisent des tas de choses, parce que finalement le problème c'est que c'est pas seulement les éléments pertinents dans ce qu'on dit dans ce qu'on dit au téléphone qui sont retenus contre nous. C'est un portrait psychologique qui est dressé. Moi on m'a fait un portrait psychologique de moi en audition. On m'a dit voilà, je vais vous expliquer qui vous êtes. C'est ce que m'a dit l'officier de police judiciaire. Donc c'est assez glaçant en soi, ça ramène dans la vie des autres en fait. C'est ces personnes qui... Surtout quand j'ai face à moi quelqu'un qui avait quelque part peut-être une impatience de me rencontrer parce que lui il me côtoie depuis un an, moi je le côtoie pas depuis un an et il y a un décalage que quelque part lui il abolit et moi je me rends compte que ce type là il m'a écouté pendant un an en fait, il retranscrit mes conversations tous les jours et c'est très évident en fait dans son rapport à ce que j'exprime, il y a une familiarité avec moi qui est évidente en fait et ça c'est glaçant comme constat. Et après, c'est aussi une forme d'intimidation policière de dire on sait tout sur toi, etc. Mais non, mais en fait, ce qui est problématique, c'est qu'ils sont loin de savoir qui je suis. Ils dressent une espèce de portrait à partir de captation de parenthèses. Sauf qu'il y a toute la vie que je choisis depuis plusieurs années déjà de ne pas exprimer parce que j'ai conscience de cette surveillance. Je suis un militant engagé, je sais ce que je risque en étant au téléphone. Donc finalement, on ne retient que ce que moi je laisse filtrer. Et donc ça fait un espèce de personnage incomplet en fait. Et c'est ça le problème. C'est déjà quelque chose que j'avais exprimé au moment de l'assignation. J'aurais dit, mais rendez-moi l'autre partie de ma vie en fait. Vous avez la vision qui est celle des notes blanches, qui est celle de la suspicion. Mais il y a aussi toutes celles où je passe des journées entières à essayer de faire des liens entre des gens, où j'essaie de construire des choses, où je vis, j'essaie de vivre autrement et d'interagir autrement avec les autres. Et ça, vous le voyez pas. Et ça, la surveillance, elle le capte pas. Et ça, c'est une partie qu'il faut me rendre, en fait. Si vous voulez être équitable, bah, rendez-moi cette partie-là, en fait, de ma vie. Comment je tiens? Je crois que ça fait un moment que je suis assigné un peu à résistance, en fait. Oui, c'est... Moi, la lutte, c'est le prolongement d'années de... Enfin, ça fait 15-18 ans que je lutte, en fait. Et au long d'une longue trajectoire à travers plein de collectifs de choix politiques. Et j'arrive là avec l'envie de poser quelque chose ici, et ça ne sera pas ailleurs, en fait. Et quels que soient les bâtons qu'on me met dans les roues, je le projetterai d'une façon ou d'une autre. Et c'est pas ce qu'on m'accuse de faire. C'est pas l'association de malfaiteurs que je projette ici. C'est notre vision politique de la vie, de la société, en fait, que j'ai envie de construire ici. Et si je peux pas le faire à Bure, je le ferai plus loin en Meuse. Hein. D'une façon ou d'une autre, je construirai avec les gens autour de moi, et c'est ça qui m'importe. Et après, le projet, j'espère que ce qu'on construira le gênera suffisamment pour qu'il puisse pas proliférer, et que ça convainque suffisamment de gens d'ici pour qu'à un moment donné, on soit une gêne, à défaut de pouvoir frontalement l'empêcher de proliférer, on peut indirectement être une autre vision de ce territoire et de la vie ici, en fait.
Voilà. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je voulais juste rappeler que, par exemple, dans cette débauche d'investigations policières et judiciaires, il y a ainsi 2000 communications téléphoniques qui ont été décortiquées et qui n'ont abouti en tout et pour tout, à 4 maigres retranscriptions. Ça dénote un peu le
travail inutile qui est fait.
Le travail monstrueux qui peut être fait. Et en ce qui concerne c'est plutôt les interrogatoires. C'est l'avocat Étienne Ambroselli, qu'on avait interviewé à cette antenne, à la suite de sa mise en garde à vue lui-même, et le fait qu'on lui avait volé ses documents, son ordinateur, son portable, le disque dur externe, etc. Et il disait, il avait été, lors de sa garde vue, interrogé. On lui demandait pourquoi, le 15 août 2017, il était vêtu d'une sorte de tissu mauve. Pouvez-vous nous dire quelle est la signification de ce tissu et dans quel but il est porté? Ça vous dit un petit peu le côté ahurissant dans lequel peut se trouver cette fameuse cellule spéciale Bure, qui doit être complètement dans le fantasme. C'est pas possible. Je sais pas comment l'expliquer.
Il y a pas d'autre mot, je crois, le fantasme.
Ouais, après on n'est pas dans leur tête, hein. C'est difficile, hein, d'être dans la tête d'un flic, d'encore plus d'un militaire, encore plus de quelqu'un qui fait du renseignement militaire, hein. Par contre, après, il y a des choses qui sont, on va dire, beaucoup plus objectives, hein. On va dire pour nous, c'est que, par exemple, effectivement, ne comprenant pas et ne parvenant pas à acquérir les informations qu'ils souhaitent, ils vont les chercher là où ils se trouvent. C'est-à-dire que, essayant de sonoriser, c'est-à-dire de placer des micros à la maison de la résistance, qui est le lieu acheté par les antinucléaires historiques à Bure pour oui. pouvoir organiser et servir d'espace collectif pour s'organiser puis pour se loger et bouffer tout simplement. On n'est pas dans un truc, c'est pas un camp d'entraînement, on se calme. Et ben ils n'arrivent pas à la sonoriser, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ben ils vont à la CAF. Hein, tout simplement voilà. pour avoir des billes, ils vont aux services fiscaux et puis comme ils ont besoin aussi de voir qui vient et qui vient pas et qui est-ce qui peut venir, quel type de personne, qui fait quoi, etc. Et ben ils vont voir la direction de France 2 et puis ils demandent de mettre la main non seulement sur le reportage mais sur l'ensemble des rushs pour pouvoir faire leur petite qui est et leur petite fiche. Alors il y a deux choses à mon avis là-dedans. C'est très difficile d'être dans leur tronche parce que il y a une espèce d'auto-intoxication. On imagine que ces militaires qui bossent H24, enfin pas H24, ça saurait. c'est pas des prolétaires, hein. Ils ont des vacances et des repos. Vous inquiétez pas, hein, ça, ils savent très bien défendre leurs droits de travailleurs, pas à la différence de nous. Ils s'auto-intoxiquent et puis ils font aussi valoir ils justifient. J'allais dire leur salaire, leur fonction en fournissant des trucs. Mais on voit bien la mentalité qu'ils ont, c'est-à-dire que eux, ils essayent de fabriquer un organigramme. Ben, c'est vrai, eux, ils ont un organigramme, ils ont des chefs, donc ils essayent de trouver des chefs. Et puis, dans les typologies des individus, ils essayent de trouver ceux qui peuvent être potentiellement, enfin ceux qui sont violents, ceux qui sont gentils. Ceux qui parlent, ceux qui parlent pas. Ben oui, ils ont une catégorie, ils marchent par catégorie, ils mettent les gens dans des cases. Du coup, ils demandent à une camarade qui s'appelle Corinne, qui elle est une historique du réseau Sortir du Nucléaire, une tradition antinucléaire avec laquelle nous sommes profondément en désaccord. Mais bon, c'est pas grave. Ils demandent, mais alors, vous rendez compte, il y a des gens violents quand même.
Voilà, et c'est fractionné.
Dans cette histoire, ça vous préoccupe, ça vous fait pas peur? Ça, alors cette brave Corinne, elle connaît les militants qui sont là, qui sont. Elle dit, mais écoutez, ils sont pas violents, ils sont charmants ces gens. C'est quoi la violence? C'est des blocs de béton qui tombent. C'est ça pour vous la violence?
Il faut dire que ces gens justement ont participé à la renaissance du mouvement avec des actions audacieuses et déterminées, mais finalement. Mais c'était pas la guérilla urbaine, loin de là.
C'est tout le monde qui est là. C'est ça que ces braves Pandore sont incapables de comprendre.
Toute génération confondue.
C'est que des fois tu discutes, des fois tu te bats, des fois tu cours parce qu'ils sont plus nombreux. Mais tu peux être un jour un hibou et un autre jour, c'est toi qui parles. Et ça semble difficilement concevable pour des cerveaux aussi étriqués que celui de militaires qui, eux, eh ben, évidemment, obéissent aux ordres et se mettent là où on leur dit et ils font là où on dit de faire et ils sortent pas des clous et etc etc. Là, pour eux ça paraît difficile. Bon hein, on est aussi je terminerai là-dessus sur un vieux fantasme, notamment sur les questions nucléaires mais aussi sur les questions écologiques, en tous les cas qui touchent à l'environnement, puisqu'on se rappelle ici qu'il y a quelques années, environ 5 ans etc, il y avait une longue tribune de premier ministre et de ministre de l'intérieur qui avait dit qu'une des menaces principales sur la potentialité de reprise de l'économie allait être la peur et la crainte de la technologie et qu'il allait falloir mettre là-dessus. Ça a été aussi des fantasmes dans les pays anglo-saxons, dans ce qu'on a appelé l'éco-terrorisme ou le terrorisme domestique. C'est-à-dire que dans la folie du développement du capital, dont le nucléaire en est la plus belle illustration, ils ont tout de suite pensé que ça allait forcément poser des problèmes et qu'il allait falloir mettre le paquet là-dessus, d'où la stratégie militaire.
Oui, moi je pense que c'est ça, c'est une des recettes majeures de ce système, c'est de diaboliser les opposants pour faire passer leur projet. Comme une bonne partie de l'opinion publique fonctionne sur le registre de la peur, c'est quand même quelque chose qui est très porteur. Eh ben, ils utilisent ce registre-là en diabolisant les gens. Sauf que là, bon, on fait tout pour le démasquer, évidemment.
Et puis c'est la guerre, quoi. C'est vraiment la guerre, quoi. Donc on a des moyens qui sont issus de la guerre psychologique et de la guerre du renseignement. On fait peur. on fiche, on encadre. C'est vraiment des moyens qui relèvent. On essaie de conquérir et le territoire, et les corps, et les esprits pour faire basculer. On divise. Là, on voit que la France fait valoir sa, comment dire,
sa longue tradition
De guerre contre-insurrectionnelle. Tout à fait. De découper le territoire et de faire ses petites fiches, quoi. Voilà, ça c'est la démocratie nucléaire. Ça c'est la démocratie dans laquelle vous vivez, nous vivons, et qui fait que, bah, effectivement, tu vas une manifestation parce que t'as un vecteur de sympathie ou t'es concerné par ce qui se passe, surtout quand on nous casse les pieds à nous dire, et je reste poli, qu'il nous faut encore quelques années pour réagir par rapport au réchauffement climatique, hein. Tous les jours, et ben quand tu vas à une manifestation, et ben ton numéro de téléphone il est enregistré. Ah, alors t'es pas inculpé, hein, t'es pas mis sous association de malfaiteurs, c'est les camarades là qui sont, hein, on voit ce que ça leur coûte, quoi. Mais c'est noté, t'as une encoche, voilà. Et puis les journalistes, on leur demande les rushs, voilà. Et après ils comprennent pas qu'on les aime pas, ces gens-là. Voilà.
On va faire une pause musicale et puis après on reviendra sur les deux derniers témoignages.
Moi, c'est Pivoine. Me présenter, je pense que ça suffit. Comment je suis arrivé ici, je pense il y a quelques années, où en cherchant, vu que je suis né dans le Grand Est maintenant, et ben un jour je me suis renseigné sur ce qu'il y avait un peu dans le coin comme initiative, suite à ce qui se passait sur la ZAD ou à ce genre de problème, j'ai l'impression qu'il me faisait écho, quoi, de par aussi un engagement politique. On peut dire un peu naissant, quoi. Et du coup, je suis tombé sur le site de la Maison de la Résistance, l'association de Virtuel Libre. Et j'ai appelé. Et puis, je suis venu. Et du coup, c'était assez drôle. Il y avait une personne à ce moment-là qui m'a accueilli. C'était assez chouette. Et puis, au fur et à mesure, je suis repassé de plus en plus. Après, plein de rencontres, plein de moments assez chouettes. Et aussi plein de choses qui m'intéressaient là-bas sur une façon de voir les choses politiquement que je trouvais assez chouette, en tout cas par les personnes qui étaient à ce moment-là de la maison. Je sais pas, quelque chose qu'on appelait de radicalité inclusive. Enfin, de faire des choses chouettes et déterres et bienveillantes et inclusives, quoi. Et des choses dont j'ai l'impression qu'ont été portées par pas mal de monde ces dernières années ici, quoi. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a fait venir et puis rester ici, parce que maintenant, j'habite donc pas en Meuse, mais en Haute-Marne, mais à 7 km de Bure. Et je sais pas, je suis à la même distance du laboratoire que la maison de la Résistance et l'aide du laboratoire, quoi. Je suis de l'autre côté de la petite colline. Et j'ai l'impression que... il y a plein de personnes ici qui sont contentes qui est un renouveau des pratiques, un changement de pratique. Et même encore pas très longtemps, j'entends des personnes qui disent bah « En fait, on serait venu bousculer les grilles, cramer les AGECO il y a 15 ans quand il y avait les premiers chantiers ici, ben, ils seraient partis. » Parce qu'en fait, c'est en montrant une détermination face à ce projet-là, en montrant que nous, habitants, ben, moi maintenant je me considère comme habitant, j'habite ici, quoi, que habitants, on se laisse pas marcher dessus par un projet qui nous dépasse, et ben en fait on arrive à être entendu, quoi. Comme c'est dans le cabinet du ministre qui avait reçu des opposants et qui avait dit bah, peut-être un jour si vous êtes 10 000 à Bar-le-Duc on vous entendra, tu vois. En tout cas au mois de juin on n'était pas loin de 5 000. Je pense que ça fait très longtemps que ça n'avait pas bougé. En tout cas j'ai l'impression que ces événements là récents, moi de beaucoup de personnes que je croise ici parce que je bouge beaucoup dans le coin, elles changent, quoi. Ça sort un peu de cette résignation. Ils sont aussi contents que les choses se passent. Et même plein de gens qui disent bah, « Pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Bah oui, mais enfin, viens, on le fait ensemble, tu vois. Il y a une façon globale de voir la lutte, quoi. Où oui, il y a l'antinucléaire, mais pas que. Je pense qu'ici, il y a quand même plein de choses qui posent question sur ces territoires qui sont en partie abandonnés par l'État. Ou en tout cas, actuellement, ici, où c'est l'État par les subventions du GIP, enfin, par un organisme subventionnaire... nucléariste, je sais pas comment on peut dire là, le GIP, qui donne de l'argent ici, alors que normalement l'État devrait le donner normalement. Et du coup, elle apparaît comme la main sauveuse, alors que finalement c'est la même main qui fait taire les gens ou qui les met dans des situations de galère, quoi. Et puis faire des choses sur des secteurs par ici, enfin je sais pas, moi je trouve que ça a du sens en fait. De retrouver des choses que tu fais toi-même, le faire avec des voisins, des amis. Retrouver une vie qui sort du capitalisme sans être en autarcie. Enfin, moi, ça m'intéresse pas d'être en autarcie, quoi. J'ai envie de faire des liens avec d'autres et faire des choses avec des gens ici, quoi. Il y a l'interdiction de voir plusieurs autres personnes, donc qui augmente en plus à chaque fois. Au départ, c'était 8, 9, 10 maintenant, je crois. Quand ça s'arrêtera. Il y a l'interdiction d'aller en Meuse. Sachant que j'habitais à 2 km de la Meuse. Il y a l'interdiction de sortie du territoire français. Et la quatrième, qui est un suivi du SPIP, qui est le service de probation, d'insertion pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion probation. Enfin, d'aller à des rendez-vous pour montrer mon état, je sais pas, des papiers, machin, les adresses, les, enfin, d'avoir un suivi, si je travaille, si je cherche du travail, si, voilà, ce genre de choses. Si je vais aller à Nancy, qui est la ville un peu grande, où il y a plein de choses qui se passent dans le Grand Est, avant, du coup, par rapport à ici, c'était traverser la Meuse. Je mettais, c'est une heure à peu près. Maintenant, tu es obligé de contourner le sud de la Meuse en passant par les Vosges pour attraper. Du coup, tu mets une heure et demie de route, quoi. Après, ce genre de choses, c'est vrai que ça a un coût un peu financier, j'ai l'impression, de temps. Après, moi, j'ai l'impression que c'est pas des choses qui m'impactent, ou en tout cas que j'ai pas envie que ça ait prise. En fait, je les laisse pas vivre ou... Après, c'est sûr qu'il peut y avoir des trucs d'hypervigilance, quoi. Tendance à regarder la voiture qui passe devant la maison et tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'était au début ou après. Moi, maintenant, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux par rapport à ça. J'ai pas l'impression... ou en tout cas, vu que je veux pas que ça ait prise, j'ai l'impression d'avoir un peu cette force et que ça l'a pas prise. En fait, et du coup, je le vis plutôt bien. Non mais je sais pas, c'est un peu peut-être provoque de dire ça ou je sais pas, peut-être que l'étape d'après, parce que là vu le contrôle judiciaire qui est déjà hyper drastique, c'est assez drôle parce que avec le conseiller Spip le dernier coup, je le regarde et du coup on parle de ce qui se passe, je fais bah regardez les mesures que j'ai en fait, c'est déjà, c'est une peine, il fait, oh, oui, il avait du mal à le dire quoi, en fait des contrôles judiciaires de cet ordre là, c'est, j'ai l'impression qu'il y en a très peu en France quoi. Et qu'en tout cas, c'est déjà une peine. C'est un acte politique répressif. Du coup, après, je sais pas, on continue à vivre, quoi. L'étape d'après, c'est quoi, la prison, la mort? Enfin, je sais pas, quand tu vois les luttes qui se passent ailleurs et les événements répressifs, j'ai l'impression que là, certes, on a des privilèges. En fait, moi, je suis privilégié parce que... je sais pas, je vais pas faire forcément la liste de mes privilèges là, mais en fait, j'en suis conscient. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une mise en danger quand on lutte. Et de l'accepter. Et j'ai l'impression d'avoir accepté ces choses-là. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va m'attendre après. J'ai l'impression qu'on peut rentrer sur... Enfin, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Oui, bah, on va prendre dans les dents, mais bon... en fait, c'est... tant pis, trop tard, je sais pas. C'est là, et puis on verra ce qui va arriver, quoi. Je pense à la volonté du contrôle judiciaire de couper ses liens. Ben, on voit, enfin moi j'ai l'impression que si on analyse un peu le fait de ne pas voir les autres personnes qui sont plein de personnes impliquées dans la lutte, souvent depuis un certain temps, qui plutôt s'aiment bien et font plein de choses ensemble, c'est vouloir casser l'organisation de la lutte ici. Moi par exemple m'empêcher d'aller en Meuse alors qu'en fait je côtoie plein de gens, d'amis, militants ou pas. Mais en Meuse, et en plus, quand ça fait un certain temps que t'es là, t'as des liens avec plein de personnes, quoi. Bah, c'est casser un réseau, j'ai l'impression. Ou en tout cas, de vouloir, moi, par exemple, m'extraire de ces possibilités de liens avec les gens. Enfin, c'est pas ça qui va nous arrêter, quoi. Enfin, en tout cas, moi, qui va m'arrêter. Vivre ici, c'est quelque chose qui est pas forcément évident. Pour tout le monde, hein. Pas forcément en tant que... néo-habitants du secteur ou ce genre de choses, quoi. J'ai l'impression que quand je vois mes voisins ici, il y a plein de situations très compliquées. Après, j'ai l'impression que venir faire le choix d'habiter ici, c'est quelque chose qui a été compliqué, où j'ai vraiment remis en cause avec ces interdictions, ce contrôle judiciaire qui est assez lourd, alors que j'étais en train d'acheter une maison ici. Et finalement, je me suis dit que ça m'empêchera pas de faire ce que j'ai envie de faire. Après, c'est sûr que sur le coup, ça fait un peu chier. Et puis après, maintenant, en fait, j'ai rencontré plein d'autres personnes. Je fais d'autres choses autrement. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas ça qui m'arrête. Et qu'en fait, on faut passer outre. Enfin, que c'est juste des bâtons dans les roues. Je sais pas comment on peut dire, mais. La suite, je pense, elle va être continuer les projets que j'ai en cours aussi, quoi. Rénover cette maison, la rendre plus chouette pour moi et les gens qui ont envie de me rendre une visite ici. Continuer le projet de grand jardin que j'ai à 500 mètres de cette maison. Et en fait, continuer à faire le choix. Enfin, j'ai l'impression que déjà, ma vie, elle est là et... elle a du sens. En tout cas, j'essaie de lui donner du sens ici. J'ai l'impression que ça marche bien. Et j'ai l'impression que, du coup, continuer... Et du coup, ma vie, c'est aussi la lutte, ici. En fait, mon quotidien, c'est parler avec des gens. J'ai l'impression d'être... Enfin, de... Quand on me promenait, tu croises des gens, t'as un lien. Il y a plein de gens, j'ai l'impression, dans les villages aux alentours, même sans me connaître directement, savent qui je suis ou ce que je fais ici. Et que ça donne du sens. Et qu'en fait, la lutte, même si je peux pas voir mes amis ou aller à une manifestation ou à une réunion ou à d'autres choses... qu'en fait, je continue à porter la lutte autrement et qu'en fait, elle est tellement... pas, enfin, je sais pas... imprégnée. Je sais pas comment... quel mot serait juste. Qu'en fait, c'est là, en fait. On a les deux pieds dedans et on continue. Et l'avenir, on le verra, quoi.
Merci.
Dans des commentaires ?
Bah, peut-être pour un petit peu aussi faire ce qu'on n'a peut-être pas dit en introduction, l'instruction pour association de malfaiteurs qui concerne donc les personnes que vous avez entendues, mais également d'autres personnes qu'on entendra peut-être plus tard, parce que le temps nous manque un peu, quoi. Elle est basée sur quoi au départ en termes de faits, parce que faudrait peut-être quand même rassurer les gens quand on parle d'association de malfaiteurs, tout de suite ça fait des ampleurs. C'est quoi ? C'est une tentative d'incendie dans l'hôtel-restaurant. Alors, tentative d'incendie, c'est la classification pénale. Hein.
Oui, c'est
mais
ça.
En gros, c'est une bouteille qui a été balancée où il y avait un liquide inflammable dedans. Des dégradations commises à l'Écotec au mois de février 2017. Et des violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique qui ont été commises lors d'une manifestation le 15 août 2017. Ça, c'est suffisant pour créer une association de malfaiteurs et donc mettre en branle des moyens tels quels. Moi, j'ai participé à une manifestation samedi après-midi où il y a des centaines, voire des milliers de gens qui ont fait des tentatives d'incendie, commis des violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique et dégradé en réunion des éléments de mobilier urbain et de mobilier tout court. Donc voilà, potentiellement, il y a, je pense, la moitié de la population française qui est en association de malfaiteurs, si jamais elle se bagarre pour défendre ce qu'elle estime être ses droits. Et là, je crois que ce que les camarades qui s'expriment ont essayé de le dire, mais ce qui est assez réjouissant quand même, c'est que... même si dans ce qu'ils écrivent, ça semble très lourd, il y a une relativisation, quoi, en tous les cas, pour eux, la vie continue.
Ben, oui, c'est bien que tu parles de ça, de cette mobilisation de samedi à Paris, parce que moi, je me suis retrouvé notamment pas loin de Saint-Dizier, sur un barrage. Bon, on était coincé à un barrage, et je suis allé voir les gens pour leur demander s'ils avaient un tract. Et je leur ai dit, mais en rigolant, ça s'est bien passé, j'ai pas été agressé. Je leur ai dit, mais ils ont raison, ils augmentent tout, ils ont besoin d'argent. Vous vous rendez compte qu'à 10 kilomètres de là où vous vous trouvez actuellement, sur votre barrage, ils veulent faire une poubelle nucléaire qui va coûter... Alors au début, les gens, ouais, j'en ai rien à faire et tout. Comment ça, t'en as rien à faire ? Non, t'en as pas rien à faire. Vous savez combien va coûter ce projet de centre de stockage nucléaire ? Et je leur dis le chiffre, 35 milliards. Alors là, je dis, vous pensez pas que la population pourrait en avoir besoin de cet argent pour d'autres tâches, d'autres projets de société, etc. Et là, effectivement, les visages se sont ouverts, quoi, et on était à l'écoute. Ils étaient à l'écoute, quoi. Alors, je crois qu'il faut quand même préciser, parce que on attend avec impatience le rendu de la Cour de cassation. L'avocat Lécuyer a demandé la levée de toutes les mesures d'interdiction en Meuse, du village, des fréquentations, etc. Le rendu va avoir lieu le 28 novembre.
C'est ça, le mercredi novembre, prochain. La levée ou pas du conseil du contrôle judiciaire.
Et je voulais dire aussi que le 13 novembre, donc c'était la veille, c'était à Bar-le-Duc cette fois, il y avait quatre personnes qui passaient pour un rendu de jugement. Il y a une personne qui a pris 3 mois ferme pour outrage. Hein, parce qu'en fait, les gens qui vivent à Bure ou à proximité, qui vivaient en forêt, sont souvent excédés par des provocations militaires. Hein, et ça arrivait de multiples fois. On en a parlé de nombreuses fois à cette antenne. Il y avait donc une personne qui a pris 3 mois ferme, une autre qui a eu 3 mois avec sursis, une autre, enfin, une grosse amende.
3 mois ferme pour un outrage ?
C'est ça, absolument. Et bon, il aurait craché sur les gardes mobiles.
Ah, c'est pas un outrage, et... ça, c'est de la...
Et la quatrième personne, qui est la personne qui a écrit l'ouvrage La bataille du nucléaire, Gaspard Dalens, lui a été relaxé. Parce qu'il avait été jugé hors son absence et hors publicité. On l'avait pas, absolument pas prévenu. Donc voilà. Et je voulais dire aussi que le président de l'association des maires de la Meuse et élargie, la Meuse, la Haute-Marne, Jean-Marc Fleury, a déclaré à la sortie de la Cour de cassation que l'État a l'air de considérer que c'est un crime de s'opposer à un projet d'État. Mais ça ne les arrêtera pas. Les gens ne s'arrêteront pas.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de se rendre compte de à la fois la forme et l'ampleur de l'ennemi qu'ils sont en train d'affronter, et que fort heureusement, toutes les saloperies et tout l'arsenal qui est développé, ça semble pas prendre au niveau à la fois de la terreur, mais aussi du découpage. De l'opposition en divers segments, ce qui serait évidemment le rêve de l'État, quoi. Mais effectivement, Jean-Marc Fleury, il a tout à fait raison. Quand on s'oppose à l'État, quand on s'oppose au capitalisme et quand on s'oppose à la bonne marche du monde, on est un criminel.
Absolument. Et moi, j'ajouterais une chose pour ces magistrats avides d'enquête, qu'ils fassent une enquête magistrale et somptueuse sur les victimes des essais nucléaires dans leur propre rang, puisque même chez les militaires, il y a de nombreuses victimes qui, pour le moment, n'ont jamais eu gain de cause. Voilà un vrai travail de fond à faire.
Mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Et c'était les Régorges, chaque semaine chez les Goligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Reims, où cette émission est réalisée. Les Régorges, une parole anarchiste communiste, faut-il le rappeler. Et puis surtout, si vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog de Chat Noir 51.